Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Tikenja Fakoli, bonjour.
Bonjour.
Je suis très contente de vous retrouver.
Merci.
20 ans après notre première interview.
Ouais.
J'ai écouté attentivement vos chansons de ce nouvel album et lu tous les textes. Et je vois que vous n'avez rien perdu de votre verve depuis votre premier album. Donc celui-ci, il a quelques caractéristiques. Il est engagé pour le climat. On va en parler plus tard. On va reparler de vos engagements. Puisque So Sweet Planet est un site sur la culture, les droits humains et l'environnement. Cet album, vous avez voulu l'enregistrer dans votre propre studio avec des musiciens africains. Qu'est-ce que cela signifiait pour vous?
Enregistrer dans mon studio, enregistrer avec des musiciens africains, pour moi, c'était un peu le retour aux sources. Voilà, parce que depuis un moment, mon public africain m'avait fait savoir qu'ils ont l'impression que je fais du reggae maintenant pour les Occidentaux ou bien pour les Blancs, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est les thèmes qu'ils employaient et qui ne retrouvaient plus le rythme du reggae africain. Voilà. Pour moi, effectivement, ils n'avaient pas tort parce que moi, j'étais à la conquête d'un public qui n'écoute pas forcément du reggae. Parce que moi, j'ai un message important et donc ce message-là, je ne veux pas le faire passer qu'aux fans de reggae. Donc pour moi, c'était important d'ouvrir un peu ma musique, de sorte que, je puisse toucher un large public. Et c'est ce que j'ai fait depuis l'album African Revolution jusqu'à Dernier Appel. Et puis bon, là, j'ai décidé de retourner à la maison, de retrouver le son du reggae africain, voilà, mieux produit. Donc voilà, c'est vraiment le retour aux sources.
Mais alors, est-ce que c'est dans votre propre studio ?
C'est dans mon propre studio, un nouveau studio que j'ai monté, qui s'appelle Studio Radio Libre, que j'ai monté à Abidjan. J'ai monté un complexe culturel dans lequel nous avons deux salles de répétition, un studio d'enregistrement, une radio, et je viens de faire l'ouverture de la première bibliothèque de reggae, première bibliothèque reggae d'Afrique. Je fais ça à Abidjan, et donc j'ai un autre complexe culturel à Bamako qui s'appelle encore Radio Libre.
Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'étais un petit peu emmêlée.
Oui, il y a Radio Libre Abidjan, Radio Libre Bamako.
D'accord.
Et donc, à Bamako, nous avons deux salles de spectacle et un restaurant. Et mon rêve, c'est d'avoir une radio là-bas. Et c'est certain que d'ici l'année prochaine, donc d'ici 2020, il y aura une autre bibliothèque là-bas. Et voilà. Et donc, effectivement, tout a été enregistré dans mon studio à Abidjan avec des musiciens ivoiriens.
D'accord. Et d'ailleurs, vous les avez choisis avec soin, vos musiciens.
Après un casting. Vous
pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, on a fait un casting. On a choisi le groupe qui nous semblait le plus inspiré. Et puis, on a gardé le groupe qui est venu en deuxième position parce que ce groupe en deuxième position avait un style un peu avec quelque chose de spécial. Et donc, nous avons enregistré 15 titres au total. Et donc, le groupe qui a été sélectionné a enregistré 11 titres. Et le groupe qu'on a repêché a enregistré 4 titres. Et donc, on est très contents. Et voilà, le résultat est là. Et
d'accord.
On est très contents.
Alors, j'ai regardé les petites vidéos qui ont été publiées sur votre page Facebook pour le lancement de cet album. Vous dites que ceux qui sont au pouvoir actuellement pensaient que vous étiez avec eux, mais que vous êtes toujours avec le peuple. Et en fait, ce n'est pas tant pour parler de politique que je vous parle de ça, mais parce que il me semble que ça a été vraiment la ligne tout au long de vos albums et depuis qu'on s'est rencontrés, donc depuis toutes ces années, de rester centré. C'est-à-dire que vous pouvez défendre certaines opinions politiques, mais si les personnes se détournent du chemin qu'ils défendaient, vous ne suivez pas, vous ne vous laissez pas influencer.
Exactement.
Ce qui me semble. Et c'est le sujet d'une de vos chansons aussi.
Qui s'appelle Ngomi.
Ngomi. Ngomi. Donc cette indépendance, elle est capitale pour vous parce qu'en fait, c'est très difficile de rester indépendant. Quelquefois, même on le souhaite et on ne se rend pas compte que l'on dévie.
Cette indépendance, c'est très difficile. C'est une grande responsabilité aussi. C'est difficile parce qu'on peut même avoir des querelles familiales puisque le président actuel de la Côte d'Ivoire, pratiquement du même village que moi, puisque sa mère vient de mon village. Donc le fait que je décide de le critiquer, ben voilà, je me retrouve attaqué par toute ma famille. Et donc, mais moi, je fais du reggae. Le reggae s'est fixé comme mission depuis Bob Marley d'être aux côtés du peuple, d'être la voix des sans-voix. Et donc, voilà, moi, j'ai décidé de continuer la mission de Bob Marley et je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, effectivement, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, à l'époque, ils se ressentaient dans mon message, dans mon discours aussi. Et puis, ils se sont dit, ah, c'est notre gars, c'est notre frère et tout ça. Et puis, quand ils arrivent au pouvoir, je continue à les critiquer. Et je les critique aussi, je veux dire. Et puis là, ils se disent, ah, mais le gars, qu'est-ce qu'il fout? Et donc, mais ils oublient que moi, c'est la promesse que j'ai faite à mon peuple depuis longtemps. Moi, depuis le début de ma carrière, j'ai dit à mon peuple que je vais chanter l'injustice, que je vais chanter les inégalités, que je vais critiquer les hommes politiques si jamais ils ont des comportements bizarres et que je vais dénoncer si jamais ils font des choses qui ne vont pas dans l'intérêt du peuple. Et donc, c'est l'engagement que j'ai pris envers le peuple et que j'essaie de respecter. Donc, l'ongomi, c'est une galette chez nous où les deux côtés sont grillés. On grille d'abord un côté, après on renverse l'ongomi, la galette, et on grille aussi l'autre côté. Donc, je me retrouve aujourd'hui comme une galette, comme cette galette-là, qui est grillée des deux côtés, parce que ceux qui étaient au pouvoir avant ne m'aimaient pas.
Parce que vous les critiquiez.
Parce que je les critiquais. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir ne m'aiment pas, parce que je les critique. Et depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ça va faire bientôt 10 ans. Je pense que j'ai fait que 2 concerts en 10 ans. Parce que même quand je veux monter des dossiers pour chercher des sponsors,
En Côte d'Ivoire.
Logiquement, je devrais être accompagné ou je devrais être encouragé. Mais les sponsors ont toujours dit qu'ils ne veulent pas m'accompagner parce qu'ils pensent que le pouvoir n'est pas content de moi. Il y a une autocensure qui ne dit pas son nom, mais bon, qui quand même existe. C'est certain que les dirigeants n'ont pas donné de coup de fil pour dire « n'accompagnez pas Tiken ». Mais le fait que ces sponsors voient que je critique le pouvoir, ils se disent « ah, si je soutiens Tiken, je vais avoir des problèmes ». C'était la même chose sous l'ancien régime. Donc voilà, c'est de ça que je parle dans ce titre. Je dis « je suis l'ongomi ».
Et donc, vous avez été en exil au Mali. Et au Mali, vous vous êtes engagé aussi. En fait, il vaut mieux vous avoir assez loin de son, de son pays quand on est dirigeant. Ouais. En 1999, donc, dans cette interview que vous m'aviez accordée à l'occasion de la sortie de votre album « Cours d'histoire », vous m'aviez dit « Je sais que je soutiendrai toujours ceux qui sont victimes d'injustice ». Nous sommes donc 20 ans plus tard. Est-ce que vous pensez avoir tenu parole?
Je pense que j'ai tenu parole. D'ailleurs, c'est ce qui fait de moi l'ongomi. C'est ce qui fait de moi cette galette grillée de partout. C'est ce qui fait que j'ai été en exil pendant 5 ans. C'est ce qui fait que même aujourd'hui, je suis interdit de rentrer au Congo-Kinshasa. Parce que une fois, je suis allé il y a quelques années, 2-3 ans, en 2016 je crois. Je partais au Congo-Kinshasa pour un concert. Et j'ai été remis dans l'avion qui m'a amené avec mon groupe.
Qu'est-ce que vous avez fait au Congo alors?
Non, parce que ils ont écouté ma musique, ils ont trouvé que mon message était très engagé. Et comme dans ce pays, le Congo-Kinshasa, on est habitué aux artistes qui chantent les louanges du pouvoir ou des hommes au pouvoir. Et donc, du coup, un artiste qui arrive, qui fait le contraire, on n'a pas envie qu'il vienne contaminer les autres. On n'a pas envie qu'il vienne parler aux populations. Donc, on m'a fait retourner dans l'avion qui m'a amené. Donc, je pense que c'est
sans chanter.
Sans chanter. Non,
Vous êtes arrivé sur place et on vous a remis dans l'avion.
Je ne suis même pas sorti de l'aéroport.
Indésirable.
Je ne suis même pas sorti de l'aéroport. Ils ont récupéré le passeport de tous les membres du groupe. Et puis on nous a dit d'attendre. Nous, on pensait que c'était pour accélérer la procédure, puisqu'on partait pour un spectacle. Mais en fait, ils ont gardé les passeports, ils ont appelé la présidence qui leur a dit « remettez-les dans l'avion ». Donc voilà. Et je pense que j'ai respecté mon engagement. Je suis toujours aux côtés du peuple. Je chante toujours contre l'injustice, contre les inégalités. Je ne fais que mon boulot parce que j'ai décidé. Je pense que le reggae est la musique qui, depuis Bob Marley, a décidé de chanter contre les inégalités. Donc moi, je suis juste sur la ligne tracée par Bob Marley.
Et je pense que ce peuple, où qu'il soit, vous le rend bien, puisque j'ai vu que vous aviez plus d'un million de personnes qui vous suivent sur votre page Facebook.
C'est vrai, 1 600 000, bientôt 2 millions, je pense. Ouais.
Bravo. Lors de cette première interview, nous avions parlé de ce qui vous révoltait en Afrique et dans le monde, hein, on peut dire, même en France. Vous n'avez cessé, au travers de vos textes, de clamer tout ça. Sur votre nouvel album, dans « Non, 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 non », on a l'impression que tous les problèmes dont vous parliez il y a 20 ans sont toujours là, en fait. Hein. Ouais. Les marchands d'armes, l'exploitation des ressources par des puissances étrangères, la France-Afrique, les mercenaires, la corruption, les enfants soldats. Et on a l'impression que de nouveaux sujets s'y sont ajoutés. 20 ans plus tard, quel bilan faites-vous en positif et en négatif? Qu'est-ce qui continue de vous révolter? Donc, j'imagine un peu tout ça déjà. Mais est-ce qu'il y a aussi des choses qui ont évolué positivement? On doit en trouver quelques-unes.
Je pense que ce qui a évolué, c'est que grâce aux réseaux sociaux, les populations africaines sont mieux informées. Sont pas encore tous réveillés, puisque la majorité d'entre nous ne sait ni lire ni écrire. Donc, si on ne sait ni lire ni écrire, on ne peut pas utiliser Internet forcément. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons réussi quand même à bousculer nos dirigeants un peu. Ils savent qu'ils ne peuvent plus se comporter comme leur prédécesseur il y a 20 ans. Donc, je pense que ça a évolué. Et je pense aussi que l'Occident qui a pillé depuis longtemps, qui continue de piller le continent africain, c'est que le pillage maintenant ne peut plus se faire dans la journée, que ça ne peut se faire que la nuit. Parce que dans la journée, on peut se faire attraper, on peut se faire dénoncer. Donc je pense que c'est le côté positif, mais sinon les mêmes problèmes existent. Le pillage continue, l'exploitation du continent africain continue. On continue de soutenir, sinon de vendre des armes à des chefs d'État qui ne sont pas forcément démocrates. Et donc on continue de fixer le prix des matières premières des pays africains, etc. Donc voilà, on continue de construire des murs ou bien d'empêcher les Africains de bouger, alors qu'il y a une injustice assez nouveau. C'est-à-dire que les Occidentaux peuvent aller en Afrique où ils veulent, quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent, prendre ce qu'ils veulent et même s'installer s'ils veulent. Mais quand un Africain décide de venir en France, c'est tout un problème. C'est un sens unique, donc c'est pas juste. Donc les mêmes problèmes existent, mais voilà, il y a du positif et du négatif. Et donc comme on a décidé de continuer ce combat-là, on continue jusqu'à ce que, voilà, en tout cas, on joue notre rôle. Même si on n'est pas sûr de gagner le combat, on sait que c'est à nous de planter de la graine et de l'arroser. Et puis nos enfants viendront finir, sinon cueillir les fruits. Voilà.
Et justement, cette nouvelle génération, est-ce qu'elle vous donne de l'espoir aujourd'hui en Afrique?
Oui, elle me donne l'espoir parce qu'elle a compris notre combat. Elle a compris notre combat parce que ce qui aurait été dommage, c'est qu'on se rende compte qu'on chante dans un désert. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, pas la majorité, hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande partie qui n'est pas alphabétisée. Mais voilà, je pense qu'elle me donne l'espoir. Moi, je pense que les futures générations viendront, c'est certains qui viendront mener le reste du combat.
Votre biographie officielle vous dit engagé sur de nombreux fronts, tels que la lutte contre la corruption, l'altermondialisme, la lutte contre l'excision. Est-ce que ce sont des engagements au travers de vos chansons ou est-ce que vous êtes aussi engagé sur le terrain?
Je suis engagé sur le terrain. Concernant l'excision, il m'arrive de recevoir très souvent des associations de femmes qui luttent contre l'excision parce qu'elles ont entendu, elles ont écouté ma musique. Voilà, vous savez, en tant qu'un homme, aborder ce sujet, c'était très très fort. Je me rappelle à l'époque quand j'ai fait cette chanson, j'ai un ami qui m'a dit « mais tu ne peux pas parler de ça ». J'ai dit « mais pourquoi ?»
Déjà pour une femme, c'est compliqué.
Ah oui, c'est compliqué.
C'est déjà audacieux.
Voilà, moi j'ai dit « mais voilà, moi je parle de ça, je prends le risque. Arrivera ce qui va arriver, mais je pense qu'à partir du moment où les femmes qui sont victimes de cette pratique-là ont décidé de lever la voix, c'est qu'il y a injustice. Et donc, comme moi, j'ai décidé de lutter contre l'injustice, j'ai dit, bon, on va tout faire pour qu'elles retrouvent leurs droits. Et donc, effectivement, maintenant, le témoignalisme, j'ai milité aux côtés de l'association ATTAC, aux côtés d'une autre association qui s'appelait Drop the Debt, qui demandait l'annulation des dettes des pays africains. J'ai milité auprès d'eux et jusqu'à aujourd'hui, d'autres associations intermondialistes continuent de m'approcher quand il y a des combats à mener. Il y en a qui demandent s'ils doivent utiliser mes chansons. Ouais, je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain parce que j'essaie de joindre l'acte à la parole.
Alors, il est aussi précisé sur cette biographie que vous militez, ça c'est moins fréquent dans ce qu'on peut voir chez les artistes engagés, pour l'agriculture et contre l'exode rural sur le continent africain. J'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots de cet engagement.
Mais depuis mon enfance, j'ai toujours eu du respect pour les agriculteurs. J'ai été moi-même au champ, c'est-à-dire cultivé tous les week-ends. Et l'objectif de mon oncle qui m'a élevé, c'était de s'autosuffire sur le plan alimentaire. Donc lui, il cultivait le maïs, le riz, le manioc, voilà, etc. Le mil aussi. Et il était polygame. Et il avait trois femmes. Et ces trois femmes, chacune avait son jardin. Donc tomates, oignons, tout ce qui va dans la sauce était cultivé par ces femmes. Et lui, il cultivait ce que je viens de vous dire.
Chacun sa petite cuisine.
Chacun sa... Donc du coup, on était 15 dans la famille. Il donnait l'équivalent de combien de centimes? Je vais aller en francs que je maîtrise mieux. 2 francs. 2 francs, et c'est ce qu'il donnait. Et les 2 francs permettaient d'acheter un peu de poisson, un peu de sel. Et c'est tout ce qui venait du marché. Parce qu'on avait tout à la maison. Donc j'ai été éduqué dans ça. Et moi, j'ai contribué à ça puisque j'allais au champ. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'amour de l'agriculture. En 2013, j'ai fait 50 hectares de riz dans mon village. J'ai acheté tracteur et moissonneuse. Mon objectif, c'était d'encourager l'agriculture. Amener les jeunes à aimer l'agriculture. C'était ça, je voulais faire passer un message. Pour moi, c'était jusqu'à aujourd'hui, à 40 km de Bamako, je fais de l'élevage. J'ai plein de poules de race, j'ai plein de cailles. Je ne sais pas si vous connaissez les petites poules là, qui s'appellent les cailles. J'ai des dindons, j'ai des pins, les oiseaux qui font la queue comme ça. J'ai des oies, les oies de Toulouse, les oies de Guinée, etc. Donc voilà, j'ai été toujours proche de l'élevage et de l'agriculture. Parce que je pense que dans la chaîne de la société, les agriculteurs sont très importants. Et qu'ils ne sont pas payés à la valeur de leur apport. Parce que la nourriture, c'est le carburant de l'homme. Et donc tous ceux qui sont dans les grandes villes, ils sont obligés de manger. Mais vous ferez un micro-trottoir, il y en a même qui ne savent pas comment on plante le manioc. Il y en a qui ne savent pas comment on cultive le riz, mais ils adorent le riz. Donc voilà, pour moi, les agriculteurs méritent respect et considération parce que ce sont eux qui nous permettent d'avoir du carburant. Et si on n'a pas de carburant, on ne peut pas aller travailler. Et si on ne travaille pas, le monde s'arrête. Et donc voilà un peu mon avis sur l'agriculture.
Donc, vous êtes engagé avec pas mal d'associations, vous devez être extrêmement sollicité, évidemment, vu votre notoriété maintenant. Comment est-ce que vous choisissez les projets et les causes pour lesquelles vous décidez de vous impliquer?
C'est les causes, dès que le peuple est concerné par un combat. Comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis le début de ma carrière, je me suis engagé devant le peuple à me battre à ses côtés, à me battre pour lui. Et donc, dès qu'il y a un sujet qui concerne des sans-voix, des gens qui ne peuvent pas s'exprimer, je me porte volontaire comme leur porte-parole. Donc c'est un peu comme ça que je m'engage.
Depuis 2004, je crois, vous êtes engagé dans votre propre projet intitulé Un concert, une école, qui vous a permis, si mes chiffres sont bons, de construire 6 écoles
exactement
dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est né comment, ce projet-là?
Le projet est né en 96. J'étais dans un petit village pour le tournage d'un clip. Et c'était un lundi matin. Et à ma grande surprise, j'avais eu beaucoup de gamins autour. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Au début, je pensais que le réalisateur du clip les avait recrutés pour participer au tournage. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'étaient pas invités et qu'ils se sont invités eux-mêmes là, j'ai posé la question après le tournage. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et puis, il y a un gamin qui m'a dit, nous, on ne va pas à l'école, on est là. J'ai dit, mais il n'y a pas d'école ici. Et le gamin me dit, non. La seule école dans la région, c'est à 15 km. Et quelques enfants du village qui vont à l'école, leurs parents sont obligés de les remorquer à vélo tous les matins pour aller à l'école et aller les chercher le soir. Et donc, quand j'ai fini le tournage, je suis allé rencontrer le chef de village. J'ai dit, bonjour, moi je commence ma carrière, je n'ai pas les moyens, mais ça me choque de voir les enfants ici comme ça. J'ai dit, je vous promets qu'un jour, je viendrai construire une école. Et puis, en 2006, je crois, je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas, on a construit cette école. Puis c'est de là que c'est parti. Et puis, j'ai un ami qui m'a conseillé de créer une association. J'ai trouvé le nom. Et puis bon, c'est comme ça qu'on a commencé le projet. Et on a construit une deuxième école en Côte d'Ivoire. J'étais de passage dans un village un soir. Un village où ils avaient déjà fabriqué des briques. Ils m'ont interpellé, ils m'ont dit, ah, nous, on n'a pas d'école, on a appris que tu as construit une école dans tel village. J'ai dit, bon, voilà, moi, je n'ai pas assez de moyens. Ils m'ont dit, nous, c'est spécial, on a déjà les briques. Donc, c'était la nuit, je suis allé avec la voiture, j'ai vu les briques, et puis je les ai aidés à construire une école, ça a été la deuxième école. Et puis, bon, après, j'ai expliqué à mes musiciens qu'à la fin de chaque tournée, nous allons faire un concert où personne ne sera payé. Et puis, comme ça, on va construire une école dans un pays africain. Et aujourd'hui, nous sommes à 6 écoles. L'objectif, c'est de faire passer le message très important de l'éducation dans nos pays en voie de développement. Je pense que c'est l'éducation qui va réveiller l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est exploitée, l'Afrique est manipulée, et par le système occidental, et par les politiciens véreux en Afrique, parce que tous ceux-là savent qu'ils ont affaire à une population qui est en majorité analphabète, donc ils peuvent faire leur business sans qu'il y ait de grandes manifestations pour les chasser, etc. Et donc voilà, moi j'ai envie de faire passer ce message très important. Je pense que quand la majorité des Africains sera lit et écrit, ça va changer beaucoup de choses.
Donc votre nouvel album est marqué donc cette fois par un engagement pour le climat. Mm-hmm. Comment et comment avez-vous pris conscience de cette problématique ?
Mais j'ai pris conscience de cette problématique quand j'ai vu les dégâts faits par les tsunamis, etc. Parce que quand j'ai vu aussi qu'au niveau de l'Afrique, les gens jettent les sachets plastiques un peu partout, sans faire attention. Et j'ai vu des reportages où ces sachets plastiques se sont retrouvés dans la mer et même ont formé un petit continent. Et donc je me suis dit qu'il y a urgence. J'ai pris conscience aussi.
Oui, c'est l'environnement, c'est pas que le climat. Parce qu'il y a le monde des chauds avec le monde des chauds, dont on va parler, mais voilà. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Écologie.
Il s'appelle Écologie.
Donc c'est vraiment l'environnement.
C'est l'environnement, et j'ai vu, c'est ça qui a attiré mon attention. Quand je vois aujourd'hui, en tout cas, je trouve que la planète est perturbée. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui nous semblent bizarres, et donc je pense que tout ça, c'est provoqué par notre comportement. Et donc je trouve que tous ceux qui ont une voix aujourd'hui doivent prêter cette voix-là pour attirer l'attention des décideurs de ce monde, mais pour aussi sensibiliser les populations. Parce que si on aime nos enfants, si on a envie que notre progéniture, que notre descendance continue après 1000 ans, etc., voilà, il faut se faire des soucis pour eux. Parce que moi, je vais jusqu'à penser que, comme il y a plus d'eau sur la planète que de terre, j'ai peur que l'eau ne vienne couvrir la planète à cause du fait que tout est dérangé. Et donc, je pense que tous ceux qui ont une voix aujourd'hui doivent le mettre au service de cette cause-là. C'est très important.
Donc, Le Monde est chaud, le premier single extrait de cet album avec un clip, avec Soprano. Comment est-ce que vous avez choisi Soprano ? Est-ce que c'est amicalement, musicalement, ou est-ce qu'il est aussi concerné par ce sujet ?
D'abord, Soprano, on a une première collaboration, si vous ouvrez les frontières. L'album L'Africain en 2007, je veux dire. Et puis, à la fin du clip, on a dit à suivre. Donc, ça voudrait dire qu'on allait se revoir. Et j'ai pensé à Soprano parce qu'il y a un public qui écoute Soprano qui ne m'écoute pas forcément. Les enfants de 15 ans, 16 ans, jusqu'à 20 ans, je ne suis pas sûr qu'ils écoutent Tikenja. Et moi, j'ai toujours considéré les featuring comme des échanges. Donc, voilà, j'ai choisi Soprano pour venir m'aider à ce que ces jeunes-là aient accès à ce message. Et donc voilà, c'est pourquoi je l'ai appelé. Je pense que lui aussi m'a fait l'honneur de m'inviter sur son album qui s'appelle Rampampam. Donc je l'ai fait avec plaisir aussi. Ce que je voudrais signaler aussi, c'est que Soprano fait partie des artistes qui ne m'ont pas demandé de sous pour venir faire un featuring. Parce qu'il faut se dire que beaucoup d'artistes se sont américanisés aujourd'hui. Quand vous les invitez sur votre album, ils vont demander un cachet ou quelque chose. Et Soprano, il est venu for free. Il est venu parce qu'il connaît mon combat, il connaît mon engagement. Et donc voilà, je pense que c'est un choix que je ne regrette pas. Et donc le but, c'est vraiment que le message puisse atteindre un public qui ne m'écoute pas. Comme le titre est très important, tout ce qui concerne l'environnement, le climat, ça nous concerne nous tous. Donc il est important de sensibiliser la base. Et donc si les enfants grandissent étant sensibilisés, étant prêts, je pense qu'ils vont poser des actes qui vont être différents des actes que nous on a posés et qui a créé des problèmes aujourd'hui à la planète.
Souhaitons-le.
Ouais, je souhaite.
Il y a un titre aussi qui s'appelle Libya. Mm-hmm. Et là aussi, c'est une problématique lourde, on va mm-hmm. dire. Est-ce que vous avez été confronté directement au sujet de, je ne sais même pas comment l'appeler,
l'immigration,
l'immigration mm-hmm. l'esclavage, parce qu'il y a sûr. Tout le problème de l'esclavage maintenant.
Bien sûr, j'ai été confronté directement, puisque un Africain esclavagisé en Libye, c'est tous les Africains esclavagisés. Nous, nos ancêtres ont vécu 400 ans d'esclavage. Pour nous, c'est un souvenir douloureux. Et donc, voir aujourd'hui des frères attachés comme des esclaves, ça nous fait replonger dans un souvenir malheureux. Et aussi, ça nous rabaisse. Pendant que nos frères, grâce à leur compétences sur le terrain de football, ont amélioré notre image. Comme vous voyez aujourd'hui, l'équipe nationale de France, c'est une fierté pour nous parce que c'est une équipe qui rehausse l'image de la grande France, et alors que les ancêtres de ces gens-là étaient esclaves. Et donc, voilà, ils nous ont fait passer à un autre niveau. Et donc, avec tout ce travail fait, dans Libye, je pose la question aux jeunes. J'ai dit, mais si le prix à payer pour aller en Europe, c'est d'aller rabaisser sa race, alors ça ne sert à rien. Et donc, c'est des conseils que je donne aux jeunes. Je leur dis, la route n'est pas bonne, c'est dangereux. Vous allez nous faire mal, vous allez vous faire mal, mais vous nous faites mal aussi. Donc, on ne va plus en Libye, on ne va plus en France, parce que la route n'est pas bonne. La route n'est pas bonne parce que sur la route, on est humilié, sur la route, on est esclavagisé, sur la route, on est maltraité. Et quand on est maltraité, on fait du mal, on se fait du mal et on fait du mal à notre famille. C'est ce que j'ai dit dans Libye.
Alors, ce titre écologie, dans quel contexte l'avez-vous écrit? Le texte est vraiment intéressant, je trouve. Hein,
oui.
Le paragraphe « J'ai consulté la mer
oh, », ouais.
Ensuite « J'ai consulté le désert
ouais. », »,«
J'ai consulté la mer, savoir pourquoi elle rejetait tout mm-hmm. »,« Elle m'a dit, rien ne m'appartient, cela vient de chez vous. »
Voilà. Et moi, j'ai eu l'idée, mais j'avoue que c'est un texte qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Kiridine.
Donc, ah oui, parce qu'il y a plusieurs
voilà.
collaborations,
voilà.
Hein, aussi avec Gaël Faye. Oh,
oui. Exactement. Donc, moi, j'ai eu l'idée, je voulais faire un titre sur l'écologie. Et j'ai eu un entretien avec Gaël Faye, ici, à mon hôtel. Il m'a dit, comment est-ce que tu veux que j'aborde ce sujet? Je lui ai dit, j'aimerais m'exprimer comme si c'est la mer qui s'exprime, comme si c'est la terre qui s'exprime, comme si c'est, voilà... Donc, je lui ai donné quelques points comme ça, et il a écrit, et je trouve que ce texte, il est super. Ce texte, il est super parce que ça explique un peu ce qu'on vit en ce moment. Et donc, voilà un peu comment l'idée est venue.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur par rapport à cet album qu'on n'aurait pas évoqué?
Non, je pense qu'on a fait le tour.
Fait le tour.
Voilà, mais je veux quand même ajouter que c'est important pour moi que la jeunesse africaine écoute le message de « Pourquoi nous fuyons ?» Parce que je dis aux Africains qu'on n'a pas le droit de fuir ce continent. Parce que si nos ancêtres s'étaient tous barrés, voilà, et que peut-être que, voilà, qu'il ne faut pas baisser les bras. Que quelles que soient les difficultés, nous devons les affronter. Et il est possible de les affronter. Parce que nous sommes à des étapes aujourd'hui où la France était dans l'après-guerre. Moi, je vois des images. Je regarde très souvent les chaînes comme Histoire ou Planète. J'aime bien voir comment le monde s'est construit, comment les guerres se sont passées, pourquoi il y a eu la guerre.
Et ça permet de remettre en perspective
ça me
le présent.
Voilà. Ça me donne quelque part de l'espoir. Je me dis, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des guerres en Afrique, c'est vrai qu'il y a des réfugiés sur la route, c'est vrai que nous sommes exploités. Mais je me dis, si des peuples se sont retrouvés dans la même situation et qu'ils ont réussi à se relever et que nous, on est sur la même planète, et qu'on a des bras comme eux, qu'on a des têtes comme eux, qu'on a des pieds, des jambes comme eux, il n'y a pas de raison que dans 50 ou 100 ans, on ne soit pas à un autre niveau. Donc, pour moi, c'est important de faire passer ce message-là. Moi, je suis un Africain optimiste. Vous savez, quand on est écrasé pendant 400 ans, quand on est colonisé ou écrasé aussi pendant plusieurs décennies, on peut quelque part se sentir sous-homme. Et donc, moi, j'ai dit, voilà, aujourd'hui, on est sorti de tout ça. On peut y arriver. Et donc, j'essaie de galvaniser mon peuple pour leur dire, une autre Afrique est possible, mais tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Personne ne viendra réclamer nos droits à notre place. Personne ne viendra changer notre continent à notre place. Le pillage du continent africain, il va s'arrêter lorsque le peuple africain va se manifester. Et je suis sûr que le jour que le peuple africain va se manifester, il y aura des relais en Europe et aux États-Unis. C'est sûr. Parce que des gens pensent comme nous que ce n'est pas juste ce que l'Afrique vit. Mais comme c'est nous qui ressentons le mal, c'est nous qui avons mal, les gens attendent que nous, on montre où on a mal, qu'on montre qu'on a mal. Et donc, je pense qu'à partir de ce jour-là, il y aura des relais un peu partout dans le monde, et ce qui va amener les dirigeants occidentaux et les dirigeants africains à changer de comportement.
D'ailleurs, la nouvelle génération, il y a toute une nouvelle génération maintenant en Afrique, de jeunes Africains qui refusent l'image misérabiliste qui a été longtemps donnée de l'Afrique en Occident, et qui se battent pour montrer par les réseaux sociaux, par le cinéma, par la mode, par la musique, par tout un tas de choses, une nouvelle image de l'Afrique, l'Afrique qui gagne, d'une Afrique qui est belle, et d'une Afrique qui est fière.
Non, c'est une bonne chose parce que personne ne viendra faire ça à notre place. Voilà. C'est un continent où tout reste à faire. C'est un continent qui détient la majorité des matières premières dont les pays dits développés ont besoin pour continuer leur développement. Nous avons tout. Nous avons, la nature nous a gâtés. Je pense que tout ce qu'on nous demande, c'est la stabilité. Une fois l'Afrique sera stable, beaucoup de personnes d'ici iront s'installer en Afrique. Ça a déjà commencé par le Maroc.
Oui.
Beaucoup de retraités français achètent des maisons au Maroc aujourd'hui parce qu'il y a la stabilité. Et donc, quand il y aura la stabilité dans tous les pays africains, tout le monde va vouloir acheter l'été continu. Parce que chez nous, c'est l'été continu. Tu peux t'habiller tous les jours comme tu veux. Voilà.
Très bien. Tikenja Fakoli, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et très bonne continuation.
Merci.
Je ne vous dis pas dans 20 ans, j'espère qu'on se reverra avant.
J'espère avant.
Mais en tout cas, une très belle continuation et bravo pour ce très bel album.
Merci.
Au revoir.
À très bientôt. Et puis j'espère, même si on se voit l'année prochaine, mais j'espère qu'on se verra dans 20 ans. Parce que ça veut dire qu'on aura une longue vie.
Et qu'on aura plein de bonnes nouvelles à mettre dans les micros.
Merci.
Au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de So Sweet Planet sur le site sosweetplanet.com. Une interview réalisée par Anne Greff.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.